Aujourd'hui, oui, parce qu'on s'est pris les pieds dans le tapis à ce que ce soit pas concret. C'est-à-dire que quand je dis méthodologie, bon bah, c'est créer une relation de confiance avec le client, travailler d'abord sur les enjeux humains, l'écouter. Enfin, par exemple, les architectes qui viennent chez nous, ils ont quand même une vision esthétique du monde et aussi du plaisir à créer. Si le client, il aime pas, c'est OK. S'il veut un truc moche, c'est OK. On est avec lui, on est à fond. Donc, tout ça, c'est plus une philosophie. Et après, du coup, on s'est aperçu. Enfin, on a recruté des gens avec notre fonctionnement entreprise libérée. On a considéré qu'ils étaient très motivés, très intelligents. Donc, on leur a dit, vas-y, du moment que tu es sympa et que tu fais bien les enjeux humains, ça va aller. Il y a quand même eu
Des couacs.
des difficultés, voilà. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on formalise un petit peu. Ça reste léger, ça reste une transmission très orale. Mais oui, il y a quand même aujourd'hui des étapes, par quoi tu commences. Il y a un peu rendez-vous zéro, tu poses ça comme question. Une réunion de chantier, c'est comme ça que ça se passe. Ton compte rendu de chantier ressemble à ça. Donc il y a quand même des outils. Le suivi de budget, c'est comme ça le tableau. Donc il y a quand même des
C'est
outils.
intéressant ce point-là parce que effectivement, jusqu'où tu laisses libre les collaborateurs pour des initiatives, des innovations et faire comme eux le voient et où ça peut être une super valeur ajoutée. Et puis le côté, bah, c'est en fait, il y a une méthodologie qui est là, qui est propre à l'entreprise, qui est aussi sa marque de fabrique et donc elle est à respecter. Et ça peut être parfois un cadre un peu trop petit pour certains profils. Tu as parlé d'entreprise libérée et on va revenir dessus après, mais ça, c'est un vrai sujet en termes de management. Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Vaillant, cofondatrice de Yemanja, l'entreprise qui conçoit et aménage des bureaux vivants et ultra personnalisés pour ses clients. Salut Marie.
Salut.
Eh bien Marie, ensemble, on va aujourd'hui parler de plusieurs sujets. Évidemment, les bureaux, on va commencer par ça, notamment avec la mission de Yemanja, réinventer le bureau pour en faire plus qu'un simple espace de productivité, mais le foyer de la culture d'entreprise. On expliquera plus en détail. On évoquera ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat. Toi qui es ingénieur agronome de formation et a été d'abord DAF de PrestaShop, pas vraiment à voir avec l'aménagement de bureau. On expliquera aussi, on a envie de comprendre. On parlera de relations entre associés, de ce qui fonctionne et fonctionne moins bien. On reviendra sur tes réussites et aussi tes galères, car c'est ça la réalité et le quotidien d'un ou d'une entrepreneur. De la période Covid-19, puisque Yemanja existe depuis 2016 et donc a vécu cette période inédite. On expliquera les impacts positifs ou négatifs. D'où vous en êtes, quelle est votre ambition pour l'entreprise et de comment tu comptes y arriver avec ton équipe. Ensemble, par contre, on ne va pas parler de levée de fonds, puisque vous n'en avez pas fait, ni de management à l'ancienne, puisque tu es une adepte de l'entreprise libérée. On parlera de tout ça. Un beau programme et un retour d'expérience qui, j'en suis sûr, va en aider plus d'un et plus d'une. Ok.
J'espère.
Pour toi?
Oui.
Eh bien, on attaque. Pour commencer, comment t'as fait pour passer de DAF dans la tech à entrepreneur dans l'aménagement de bureaux pour entreprise? Ce qui m'intéresse dans cette première partie de notre échange, c'est d'arriver à comprendre qui était la Marie, petite enfant, qui a grandi, qui a suivi des études, qui a commencé sa carrière dans un sujet tout autre et qui ensuite s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux, de manière libre, commencer et puis je te guiderai derrière.
Ok, mais je fais la version longue du coup. Je
On a une heure
tout.
Devant nous, Max.
J'ai été élevée à la campagne.
Où ça?
En Normandie. Voilà. Mon père était médecin de campagne. Et j'étais très bonne élève, première de la classe, j'adore les maths. Voilà. Mais je ne savais pas quoi faire, comme je pense la plupart des jeunes gens.
À cet âge-là, oui.
Voilà. Donc mes parents m'ont dit, peut-être tu veux faire une prépa. Je dis, bon, pourquoi pas. Comme je trouvais que ça avait l'air pas super drôle de faire que des maths et de la physique, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient aussi de la bio avec. Je me suis dit, tiens, ça va être marrant, ça va changer. Je pense que quand je me suis engagée, je ne savais même pas que c'était pour faire ingénieur agronome.
D'accord.
J'ai eu la chance d'intégrer une prépa parisienne. Donc là, j'ai découvert la vie parisienne. C'était pour moi des très belles années.
Mais tu as réussi, parce que la prépa, c'est hyper intense. Tu as réussi quand même à profiter de la vie en parallèle, ouais.
À fond.
Ouais.
J'ai pris une grande claque déjà parce que je croyais que j'étais très forte.
Oui, et quand tu arrives là-bas, tu commences par des notes en dessous de la moyenne, normalement.
Mais je me suis mis au travail spontanément et j'ai aussi rencontré des gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis.
D'accord.
Et donc, en fait, on s'est bien amusé.
Donc, des belles rencontres.
Oui. Oui, mon mari aussi. Enfin, donc, c'était... Oui,
donc, des belles rencontres. C'était
bien. J'ai intégré l'agro de Toulouse et donc, je suis diplômée d'ingénieur en agronomie. J'étais passionnée par le monde agricole. Et j'ai commencé effectivement à travailler dans le monde agricole, plus précisément dans la filière de l'élevage, qui il y a 20 ans était déjà, on va dire, en questionnement sur, sur son rôle et son organisation. Donc c'était très intéressant. Et en parallèle, je travaillais beaucoup avec mon mari, qui lui avait créé une entreprise dès la sortie de l'école. Et j'étais entourée d'amis entrepreneurs.
D'accord. C'était quoi comme entreprise ?
Biotechnologie.
D'accord, donc, ok.
Nous avons un centralien, filière centrale entrepreneur, très dynamique dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais plutôt la femme qui aide sur les aspects administratifs.
Donc, d'accord. Là, c'est un
truc assez classique. De fil en aiguille, j'ai pas mal travaillé avec lui. Et puis, après un premier enfant, j'ai été embauchée à l'école centrale où je me suis occupée de l'incubateur d'entreprise. Donc, j'ai aussi là-bas rencontré des entrepreneurs. Et puis, quand j'ai eu fini ma mission, on va dire, à centrale, soit je retournais dans le secteur agricole et tout ce qui va avec, soit justement, j'allais plus vers l'entrepreneuriat et de fil en aiguille. Donc, j'ai rencontré le fondateur de PrestaShop qui m'a embauchée à un poste de responsable administratif et financier. Quand je suis rentrée chez PrestaShop, on était 12. Quand je suis partie, on était 120.
D'accord.
Et voilà, c'est une aventure qui m'a fait beaucoup grandir.
Ouais.
En tant que DAF là-bas, j'ai eu la chance de gérer la compta. J'adore ça. Et aussi les ressources humaines. Et puis d'être vraiment partie prenante du développement de l'entreprise en tant que bras droit, on va dire, ou en tout cas dans l'ombre du CEO. Comme le fondateur de PrestaShop ne voulait pas vraiment gérer l'entreprise, on a eu plusieurs directeurs généraux, comme on dit, je pense, avec qui j'ai travaillé, qui m'ont appris, on va dire, chacun à leur manière. Voilà, et un jour, on a beaucoup déménagé, à peu près autant de fois qu'on a changé de direction générale. Et un jour, on a fait un déménagement très emblématique, puisqu'on est parti de Levallois pour aller sur le parvis de Saint-Lazare. C'était la même surface, on doublait le loyer, donc c'était une grosse décision pour l'entreprise. Et je m'en occupais du déménagement, c'est assez classique, surtout à cette époque, que la direction administrative et financière s'occupe du déménagement. Donc je m'en occupais très bien, très sérieusement. Et puis mon patron me dit « Oh Marie, tu devrais parler avec deux garçons de l'entreprise, Quentin et Xavier, parce qu'ils ont plein d'idées. » Bon, je n'étais pas très contente parce que si tout le monde me donnait son avis,
oui, tu commences ça allait à être très long. Ton avis que de personne.
Mais comme je suis disciplinée, je les ai reçus. Et Quentin, c'est aujourd'hui mon associé. Ils sont arrivés avec tout un storytelling, en fait tout un concept pour les bureaux et m'ont raconté une histoire. Et ils étaient partis vraiment dans un délire. Ils ont dit, oh, on pourrait faire ça et ça. Et je les ai écoutés. Et là, je me suis dit, je suis dans l'erreur. Ils ont raison. Et j'ai dit, on va faire tout ce que vous avez dit. Et petit à petit, on va dire, on a mis de côté le travail des architectes et on a repris en main le projet nous-mêmes. Donc, Quentin, qui travaillait à l'époque à la com, aussi sur le produit. Et puis aussi une RH qui était dans mon équipe et on s'en est occupé nous-mêmes et on s'est beaucoup amusé. C'est un projet qui a eu un très grand succès. On est à l'époque en 2014, ça fait 10 ans. Il n'y a pas tant de bureaux que ça qui sont, cool ou un peu différents du
c'est
modèle.
C'est le début de cette période où on commence à réfléchir à l'aménagement des bureaux et de cet espace, comment on le fait. Alors, avant que tu rentres dans ce détail-là, et ça, on va aller le creuser un peu plus tard, je voudrais revenir sur ton enfance et ton parcours. Parce que ce que je comprends, c'est que l'entrepreneuriat a infusé en toi depuis, ça c'était pas quelque chose où tu t'es dit visiblement je veux entreprendre depuis toute petite. T'as eu ton mari qui a lancé la boîte, t'as aidé, t'as peut-être travaillé dans l'entreprise, tu l'as vu après chez PrestaShop. Et après là tu t'es dit tiens, je vais me lancer, donc tu nous expliqueras comment ça se passe. Du coup, ma question, c'est pourquoi au tout départ le monde agricole qui te passionne?
En fait, alors ça, c'est un truc d'agro, c'est à cause du vivant, c'est-à-dire que les systèmes complexes, avec plusieurs causes qui ont plusieurs effets, et de travailler sur le vivant qui, justement, ne peut pas être raconté en une équation mathématique, avec beaucoup d'humains, beaucoup d'enjeux sociétaux. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, ce qui met le plus en colère, c'est quand c'est simplifié. Bien sûr, parfois, par exemple, pour communiquer sur les enjeux climatiques, on est obligé de dire des choses claires, alors qu'en fait, c'est hyper complexe. Et je pense que ça m'a plu. Je suis aussi quelqu'un de très opérationnel, très concret. Donc moi, voilà, j'ai toujours été à l'écurie, à balayer, j'adore ça, très opérationnel. Et du coup, quand on parle agriculture, on est face à des gens qui travaillent avec leurs mains et je crois que ça m'a plu.
Ok, donc ça te plaît, donc de ta Normandie natale, c'est ça. Donc après, tu as... tu l'en as raconté, t'es allé en prépa, mais tu savais pas trop ce à quoi ça menait à l'époque. Je veux dire, c'était pas une vocation pour toi. Tu fais ces premières expériences. Et donc, là, est-ce que t'avais toi autour de toi, alors t'as dit que t'avais des amis entrepreneurs, mais avant cette phase-là, est-ce que t'avais dans ta famille déjà des entrepreneurs ou des gens qui étaient des exemples ou qui t'avaient peut-être initié au sujet ?
Parfois, enfin, j'ai pas l'impression, mais en réalité, si on y réfléchit. Un petit peu, j'ai des oncles qui sont... Enfin, en tout cas, qui ont des gros postes dans des grandes entreprises, qui est un peu différent, finalement.
La responsabilité, en tout cas.
Oui. Mon père, il est généraliste, donc profession libérale. Donc, il s'organise quelque lui-même, part, voilà. Clairement. Ma mère a travaillé quand même dans la fonction publique pendant très longtemps. Mais elle a... J'avais l'impression vraiment... Enfin, elle était hyper investie dans ce qu'elle faisait. Mmh. Elle était soit très en colère, soit très enthousiaste, mais toujours à fond. Donc, je ne sais pas si ça m'a influencée, mais parce qu'en fait, je ne me considère pas vraiment non plus comme une vraie entrepreneur, dans le sens où j'ai l'impression que je suis arrivée là un peu par hasard, au final. Même encore aujourd'hui.
Ouais, peut-être qu'on arrive tous un peu par hasard, tu sais, l'entrepreneuriat. Enfin, moi, ça a été le cas, par exemple. Rien me prédestinait à le devenir, aucun environnement autour de moi propice. Et finalement, voilà, une opportunité qui a fait que on y arrive. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur ce podcast, c'est d'arriver à comprendre les parcours de ceux et celles qui se lancent. Parce que parfois, on ne rentre pas dans le profil type de l'entrepreneur qu'on peut voir aujourd'hui. Ok, donc tu fais cette mission chez PrestaShop, tu rencontres ces deux personnes qui te disent tiens, en fait, voilà le storytelling, le concept, tu te dis bon, on va suivre l'idée, tu l'implémentes ça débouche à la création d'une entreprise. Ça met
non,
du temps ?
Pas tout de suite.
Ouais.
Disons que j'ai quitté PrestaShop en janvier 2016. Ça faisait un moment que j'étais là, on avait changé de
direction. T'as quitté pour créer ou
non.
T'as quitté, pour d'autres raisons.
Ouais, pour d'autres raisons.
D'accord.
Et de désaccord avec la hiérarchie, on va dire.
Ça arrive.
Oui, et puis ça faisait longtemps que j'étais là. Bon. Donc, j'ai quitté PrestaShop avec une très grande ambition de moins travailler, qui est ma résolution permanente que je n'arrive pas à tenir. Donc, j'avais vraiment pas de projet à part essayer de rien faire.
D'accord.
J'ai trois enfants. Mmh. Je les avais déjà à ce moment-là. Je pars. Je ne sais pas pourquoi faire, mais je ne suis pas très inquiète. Je me dis, on verra bien. Et puis, à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui sont partis de PrestaShop. Et on a des anciens qui nous ont appelés. Donc, Quentin et moi, en disant, oh là là, je suis en l'occurrence chez Algolia, donc, qui était une autre start-up très hype. On vient de déménager, je pensais que ça serait cool. En fait, ils n'ont rien fait, c'est un peu nul, vous devriez venir voir. Et je croise Quentin, je traînais encore un peu du côté de PrestaShop, lui travaillait encore là-bas. Je croise par hasard et il me dit ça. Il me dit oh, il m'a appelé, ça ne te dit pas qu'on aille voir. Et du coup, on allait les voir et on a dit s'il nous donne un projet, on crée l'entreprise. Mais c'était.
Donc à ce stade-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de projet réel, il n'y avait pas de documentation, il n'y avait rien de monté. C'était
rien du tout.
Une opportunité, vraiment une rencontre, dire on y va et on voit. Mmh. Et eux, ils vous ont accueilli comment? Parce que quand vous arrivez avec rien...
C'est... ça, c'est la magie de l'environnement. Enfin, je trouve que c'est la magie de l'environnement startup. C'est que ça marche beaucoup à la confiance et au relationnel. Et on a été présentés, on s'est bien entendus. On a dit, bon, bah, je sais pas, là, cette pièce, elle est toute blanche. On pourrait peindre un mur en bleu et puis raconter une histoire. Et ils ont dit, bon, bah, OK, combien ça coûte? Et là, après, on a dit, bon, bah, mince, faut qu'on crée une entreprise, du coup. Déjà, il fallait qu'on trouve un nom.
Ouais. Alors justement, c'est une de mes questions. Iemanjá, ça veut dire quoi?
Alors Iemanjá, c'est une déesse brésilienne.
D'accord.
J'avais quand même réussi entre-temps à partir en voyage. J'étais partie au Brésil notamment. Et donc, avec mon associé, quand on s'est dit, mince, il faut qu'on trouve un nom, parce qu'on ne peut pas faire une présentation un peu commerciale sans nom. On a commencé à discuter et ce nom est venu sur la table. Il était déjà allé aussi au Brésil lui-même. C'est intéressant parce que Iemanjá, c'est une déesse, c'est la déesse de la mer. Mm-hmm. Elle est très bienveillante, donc tout le monde se tourne vers elle. Elle est vraiment célébrée parce qu'elle aide tout le monde. C'est aussi une déesse très puissante, c'est la mère de tous les dieux. Et au début, on l'a choisie parce que c'était poétique, on a vérifié qu'il n'y avait pas de no-go,
pas déjà déposé.
Oui, puis qu'elle n'avait pas, je sais pas, mangé tous ses enfants, enfin, fait des trucs horribles. Un truc horrible
à la fin.
Voilà, okay. Pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, plus les années passent, plus ce nom a du sens. Donc ça, c'est cool.
Ok. Mais voilà. On voit souvent, quand on voit la genèse d'un nom, après, on lui rajoute du sens, ou en tout cas, il en trouve. Et c'est intéressant de voir aussi comment vous avez accouché de ça au tout départ. Donc vous êtes dit, bon, il faut quand même qu'on arrive avec un nom. Donc vous aviez au moins un nom pour ce rendez-vous. Okay.
Et puis, on n'avait pas envie d'un nom office, je sais pas.
Oui, office quelque chose. Un nom descriptif.
Voilà, donc là, on s'est dit que c'était poétique. Et c'était sûrement implicitement parce qu'on avait l'idée qu'il fallait être assez créatif sur le sujet.
Ok. Pour revenir, tu disais aussi ton mari avait monté une boîte dès la sortie d'études. À ce moment-là, moi, j'aimerais comprendre, tu dis, tu mets la main à la pâte, t'as aidé. Il peut y avoir deux types de réactions là-dessus. Soit, oula, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux faire parce que c'est de la charge mentale, c'est du temps, c'est de la pression, on déconnecte jamais, etc. Alors, voilà le tableau qu'on pourrait voir. Et à l'inverse, dire, ah non, en fait, c'est l'éclate, je suis libre, je suis maître de mes décisions, je peux développer la boîte, je décide de recruter, pas recruter, d'investir. Comment toi, t'as pris cette période-là?
Ben, je trouve que c'est une très bonne question. Si je me replonge en arrière, je n'ai pas envie de dire ni l'un ni l'autre. Alors, lui, c'est l'inverse de moi, c'est-à-dire que c'est vraiment un entrepreneur. Je pense qu'à 12 ans, il voulait créer une entreprise. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas, je pense, de ses parents. Enfin, donc, très, voilà.
Déterminé.
Et puis, très déterminé, le business plan, enfin, voilà, tout dans l'ordre, classique, école d'ingénieur. Et moi, j'étais vraiment... c'était spontané pour moi de suivre. Quand ils voulaient recruter, on faisait des entretiens d'embauche. On s'est aperçu qu'on ne savait pas faire. Donc, on rencontrait des gens qui nous expliquaient comment on faisait. Il fallait faire le reporting, tac. Il fallait mettre à jour le business plan. On le faisait le week-end. C'était un peu une période aussi sans enfants et où on bosse tout le temps, mais aujourd'hui, ça paraît des vacances.
Un peu plus de bande passante pour travailler sur le sujet.
Donc moi, j'y ai vu surtout, je pense, des sujets intéressants, je dirais.
Ok, mais donc ça ne t'a pas découragé ou tu t'es pas dit c'est absolument ce que je veux faire? C'est quand même à la suite de l'expérience où finalement, ça, c'est pas que ça t'est tombé dessus, parce que ce n'est pas le cas, mais,
non, mais ouais,
en tout cas, c'est une opportunité qui arrive à un moment donné que tu as saisie.
Oui, d'autant que je me suis vraiment vue dès le début et pendant très longtemps, parce que c'était le cas, comme un bon bras droit. C'est-à-dire que moi, je considérais pendant longtemps qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait une vision. Donc, qui disait par exemple, je vois que sur ce marché, il faut faire ça. Quelqu'un qui a énormément foi en lui, en disant, moi, je vais y arriver. Ou alors, il y a des problèmes, mais c'est pas grave, parce que je suis très fort, donc je vais les résoudre. Et moi, j'étais pas du tout comme ça.
J'ai
aucune vision du futur. Je suis pas du tout avant-gardiste ou ce genre de choses. Et puis, j'ai pas du tout l'impression que je vais pouvoir toute seule déplacer des montagnes. Enfin, j'ai pas du tout ce feu-là, donc j'ai toujours considéré que j'étais pas du tout faite pour l'entrepreneuriat. Je me suis pas posé la question, quoi.
C'est drôle ça, parce que je pense aux auditrices et auditeurs qui t'écoutent et qui disent D'accord, elle se considère comme ça alors qu'elle fait 13 millions, 30 collaborateurs. Ok, voilà, ça fait réfléchir.
J'ai de la chance, intéressant. Je pense.
Et donc, vous faites ce premier rendez-vous. Là, donc vous avez le nom, vous avez une idée. Visiblement, vous signez. En tout cas, vous arrivez à faire une proposition et à ce qu'on vous fasse confiance. Vous créez la boîte, du coup ?
Oui, enfin quelques mois plus tard.
Voilà. Comment vous faites pour répartir les rôles, le capital ? Toi, par rapport à ce que tu disais, je ne me considère pas entrepreneur, mais est-ce que c'est Quentin qui l'est plus voilà. Comment vous définissez ? Tu disais que lui, il était plus dans la communication, toi, la partie administrative et financière. Donc, est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que vous avez posé après sur papier, toi, les rôles de chacun ? Comment ça s'est construit, ça ?
Alors, l'avantage, quand même, c'est que j'avais beaucoup travaillé sur le sujet de l'entrepreneuriat. Et donc, tout le monde dit qu'il faut écrire un pacte. Enfin, en tout cas.
D'associer.
Voilà, c'est très important et je le pense encore aujourd'hui. Et on a eu de la chance parce que Algolia, on leur a tout de suite, donc notre premier client, on leur a tout de suite posé des questions sur leur culture d'entreprise. C'est du naturel. On n'avait pas théorisé tout ça, on l'a fait spontanément. Et eux, ils nous ont expliqué que quand ils embauchaient des gens, ils leur donnaient des lectures, plus ou moins obligatoires. Et ils nous ont donné Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qu'on a tout de suite lu. Parce que on avait du temps, on avait un client. Qui prône
l'entreprise libérée, et voilà. Responsabilisation des équipes.
Exactement.
Et autonomisation.
Plein de choses. Et tout de suite, on s'est dit, ah oui, ça, c'est pour nous. Tout de suite, c'était évident. Et ça a commencé très vite aussi entre nous. Quentin, mon associé, et au départ, on était trois. Quentin, il a 12 ans de moins que moi. On n'a pas du tout le même parcours. Et on est très différents. Et donc, moi, je suis plutôt un contrôlant qui a une vision sur comment on peut faire les choses, ça, sur une vision opérationnelle. Et dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai compris, et grâce à cette lecture que je faisais en parallèle, qu'il y avait plusieurs manières de faire et que ça allait être intéressant pour moi de faire un pas de côté, d'observer, d'être à l'écoute. Mais c'est sur des choses toutes bêtes, hein. Moi, à 8h du matin, je suis debout au taquet avec mon cahier, mon crayon. Eux, ils arrivaient à 9h30. Bon, c'était beaucoup chez moi parce que j'avais la plus grande maison. À 9h30, et puis commencer limite par aller... Ah, on va aller acheter du pain et tout. Et j'étais là, c'est bizarre et tout. Et je me suis dit, ils ont peut-être raison. Moi, je suis peut-être un peu hystérique aussi. Donc, déjà, c'est pour te répondre, on a tout de suite considéré qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre nous, il y avait pas, enfin, qu'on était à égalité. Donc, on a tout de suite réparti le capital 30-30-30, maintenant 50-50, voilà. On a écrit très vite un petit pacte qui disait on sera toujours payé pareil on prendra toujours les décisions tous ensemble, quelque chose un peu comme ça. Et de fait, alors à l'époque, je pense qu'on ne l'avait pas conscientisé, mais aujourd'hui, Quentin et moi, on fait tout ensemble. Alors, c'est un peu bizarre, mais on se répartit très peu les tâches.
D'accord.
Donc, il y a eu des tâches. Par exemple, lui, il a fait le site internet et moi, je fais la compta. Bon. Mais globalement, on a un collègue qui a un souci, qui a besoin de parler, qui vient nous chercher, il peut demander à Quentin ou à Marie ou aux deux ensemble.
Alors, ça va être intéressant, ça, de parler justement de management, parce que la gestion d'entreprise à deux têtes, ça peut avoir plein de bénéfices, comme aussi plein de petites problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais du coup, quand tu dis que vous prenez toutes les décisions ensemble, j'imagine que vous ne faites pas non plus le côté opérationnel tout le temps ensemble, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement Quentin va travailler plus sur toute la com et te faire valider à la fin pour que la décision soit prise ensemble. Vous n'allez peut-être pas construire en même temps la com et inversement toi pour la compta. J'imagine que vous ne faites pas la compta tous les deux.
Oui.
C'est ça que tu veux dire ?
Oui, mais ce n'est même pas une validation finale. Alors après, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance. On a une association un peu, je pense... Enfin, rare. En tout cas, j'ai de la chance, mais on se comprend toujours. Et puis, si on ne se comprend pas, on se le dit, on se réexplique. Donc, je dis, j'ai parlé, à l'expert comptable, le bilan, il est comme ça. Ou j'ai parlé à... on a un DAF maintenant. Je lui ai dit ça, voilà, mais je lui ai dit ça dans le couloir, c'est pas une validation. Et si, par contre, j'hésite, je lui dis, ah, faudrait qu'on en parle, je sais pas.
Ça nécessite du coup une importante communication entre vous pour être aligné et pour qu'après, par rapport aux équipes, vous ayez le même discours.
Oui, alors on a le même cerveau, on a toujours le même discours. C'est un peu flippant, je pense, pour les équipes.
Tu vas nous faire peur. Ok, donc finalement, Algolia, premier client, valide le concept et ça vous lance dans l'entrepreneuriat.
Oui.
Super. Et bien, on va passer à la deuxième partie sur comment tu as fait pour te lancer puis atteindre à la fin. Aujourd'hui, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 collaborateurs avec entre-temps une crise du Covid-19 qui a eu un peu un impact quand même sur les espaces professionnels. L'idée ici dans cette partie, c'est de revenir sur après Algolia, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez enchaîné les clients ? Est-ce que vous avez recruté tout de suite ? Pas tout de suite ? Et puis d'arriver à comprendre l'offre que vous proposez et quel est le modèle économique. Est-ce que, je ne sais pas, vous prenez des fees d'aménagement au départ ? Est-ce qu'en fait, non, vous trouvez des lieux, vous les aménagez, vous les louez pendant un temps ? Enfin voilà, c'est quoi le modèle de Yemanja ?
Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question.
Oui, je t'ai tout donné, tout livré.
Je peux commencer par la fin, enfin par le modèle aujourd'hui. Ouais. Donc, on a l'avantage de faire un métier qui existe. Donc, on peut regarder le marché et dire, tiens, on va faire comme eux. Donc, on a un acteur qui s'appelle Design and Build. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on fait et la conception et la réalisation.
D'accord.
Et on est plusieurs à faire ça sur le marché. Donc, si tu veux déménager tes bureaux, tu viens nous voir, on t'écoute, on te dit, ça pourrait ressembler à ça et ça te coûtera tant. Ou alors, si tu ne peux pas mettre ce budget, il faut qu'on en parle parce qu'il faut faire des arbitrages. On fait tout type de budget, on fait des surfaces de, on va dire, 100 à 10 000 mètres carrés, donc quelques dizaines de milliers d'euros, je dis quelques milliers, mais on a grandi un peu trop, et plusieurs millions. Et à chaque fois, on va écouter les besoins fonctionnels et les besoins RH, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la culture et aux messages qu'on passe avec les bureaux. Et on va faire des plans, puis des travaux. Donc on est contractant général, donc on fait des travaux avec des sous-traitants d'électricité, de cloison, de sol, de peinture. Et puis, on va installer du mobilier. Et puis, on va personnaliser l'ensemble. On pourrait dire décorer. Mais on va surtout raconter une histoire, construire des choses. On a aussi une équipe.
Créer une expérience, en fait.
Oui. Alors, ça va dépendre de chaque client. Ça dépend de ton enjeu RH. Si ton... Et un petit peu comme externe. Si ton enjeu RH, c'est je veux que mes salariés ne s'en aillent jamais tellement l'expérience est dingue, là oui, on va beaucoup travailler sur l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui fait qu'il passe une journée de malade au bureau, si possible. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être moi, j'ai besoin qu'on ait l'air plus professionnel, même que l'équipe comprenne qu'on est en train de grandir, qu'il faut qu'on soit bien pro vis-à-vis de nos clients, ou plus créatif, ou alors... les développeurs ne parlent pas avec le marketing, c'est notre enjeu.
Comment on les fait se rencontrer
Donc, selon les problématiques, on va pouvoir travailler différemment le projet, c'est-à-dire le plan, l'aménagement et la personnalisation.
Ok, et donc ça, tu dis, vous écoutez, vous prenez un brief, après vous y répondez, donc jusqu'à la décoration, comme tu disais, en tout cas la personnalisation. Il y a d'autres services ou modèles que vous proposez ?
Non, ça arrive qu'on fasse que de la conception, mais ce n'est pas notre point fort, parce qu'à la base, on n'est pas des architectes, enfin, en tout cas les fondateurs, on a beaucoup d'architectes maintenant en interne, donc on n'est pas très fort pour faire quelque chose sur le papier, on va être plus fort pour le traduire en vrai, là on est très fort, on est très agile et tout ça, et parfois on fait aussi de l'accompagnement au changement. Bon, les exemples typiques, c'est passer en open space, passer en flex office. Mais en réalité, on a décidé de ne pas vendre de prestations intellectuelles, de conseils purs. On fait l'accompagnement à travers nos projets d'aménagement.
Tout au long, finalement, du projet. Comment vous avez fait les premières missions ? Parce que tu dis maintenant, on est des architectes. Donc, c'était une de mes questions. C'est comment est composée l'équipe ? Puisque jusque-là, j'ai l'impression que vous le faisiez, vous, de manière plutôt intuitive.
Oui.
Pour proposer à vos clients. Mais après, là, aujourd'hui, avec 30 collaborateurs, j'imagine que vous avez structuré et qu'il y a un process et des talents qui vous ont rejoint pour vous apporter des compétences ou des expériences que vous n'aviez pas.
Tout à fait. Donc, on est dans cette équation, cet équilibre entre rester nous-mêmes, ce qui a fait notre force, ce qui est notre ADN, et se structurer pour faire des grands projets, rassurer des clients qui ont besoin de l'être et délivrer avec toute la méthodologie attendue. Donc, on est entré de là. Mais l'idée initiale, et comment on a fait les premiers projets, c'est vraiment très naïf, c'est-à-dire, ok, tu viens, tu dis, oh, c'est super, on est 20, on a 200 mètres carrés, on voudrait faire un truc chouette. Et là, on parle, et ce qui est agréable avec la start-up et cet univers, c'est qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur, et nous, on est à fond, forcément, c'est nos premiers clients, on ne se paye pas, c'est juste du kiff. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et on commence à avoir des idées.
Hyper engagé dans le projet.
Oui, et on commence à avoir des idées, de dire, ah ben, ce qui serait cool, c'est qu'on propose à toute l'équipe de ramener un objet de chez eux. Enfin, on n'a pas de limite. Et puis, comme on n'est pas architecte, ben, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire, on n'est pas du tout au courant qu'il y a des règles dans le code du travail sur les volumes des débits d'air dans une salle ou sur le nombre d'évacuations, les normes PMR, ce genre de choses.
Ah oui, donc vous cassez un peu les dents sur ça au fur et à mesure ?
Bah, oui et non. C'est-à-dire, ouais. Je pense que c'est une force.
Oui, parce que vous apportez une autre perspective. Voilà, donc, mais d'un autre côté, parfois, vous devez vendre des concepts qui ne sont pas réalisables.
Bah, en tout cas, disons qu'on a pris quelques situations complexes qui nous ont appris et où on s'est dit, ah oui, ok, là, on ne peut pas faire ça.
Ouais.
Et donc, petit à petit, c'est l'avantage, on n'avait pas de pression. Donc, on a d'abord fait des petits clients. Par exemple, Algolia nous avait confié que la personnalisation.
D'accord.
Après, on a Tiny Clues qui nous a confié des travaux. Mais et puis, on s'est entouré. On a une grande culture de l'erreur. Donc, quand on fait une bêtise, déjà, on se le dit à nous-mêmes, on le dit à notre client, et puis on cherche des solutions ensemble. Donc, je ne sais pas si on a une bonne étoile ou des clients super sympas, mais on a petit à petit appris. Et oui, aujourd'hui, on a développé une méthodologie, mais on a gardé l'idée que c'est un seul binôme de chef de projet qui fait l'ensemble du projet. Ils font l'avant-vente, la conception, les travaux. D'accord. Le suivi du client, la facturation, la relance s'il faut.
Donc, tu as des chefs de projet. Ouais. T'as des architectes ?
En fait, on va dire, historiquement, maintenant ça a un peu changé, on a 50% c'est chefs de projet, donc Quentin et moi, et 50% c'est des bricoleurs, c'est des profils techniques.
D'accord.
Et les chefs de projet, on avait historiquement tout type de formation. Aujourd'hui, c'est 90% des architectes d'intérieur.
Mmh.
Enfin, ça peut, quand je dis architecte d'intérieur, il y a des subtilités. Hein. Ça peut être designer, enfin, mais
oui.
Des gens qui savent faire des plans et qui savent dessiner. Et donc, je dirais que c'est des gens qu'on choisit très créatifs, qui sont intéressés par faire un projet dans son ensemble et qui, petit à petit, vont arriver à trouver la méthodologie pour devenir aussi des chefs de projet.
Mmh.
C'est parfois difficile de prendre la pression du client.
Ouais, c'est deux profils différents. Alors, ça fait deux fois que tu parles de méthodologie, ça m'intéresse parce que tu dis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté pour que les gens viennent et puissent appliquer cette méthodologie. C'est vous qui l'avez expérimenté et après formalisé ou elle est un peu comme ça dans l'air, dans l'espace, si tu veux, chez Yemanja et puis on voit un peu les autres faire comme ça, donc on fait comme eux. Est-ce que vous avez quelque chose de concret ou pas ?
Aujourd'hui, oui, parce qu'on s'est pris les pieds dans le tapis à ce que ce ne soit pas concret. C'est-à-dire que, quand je dis méthodologie, c'est créer une relation de confiance avec le client, travailler d'abord sur les enjeux humains, l'écouter. Enfin, par exemple, les architectes qui viennent chez nous, ils ont quand même une vision esthétique du monde et aussi du plaisir à créer. Si le client, il n'aime pas, c'est OK. S'il veut un truc moche... C'est OK, on est avec lui, on est à fond. Donc, tout ça, c'est plus une philosophie. Mmh. Et après, du coup, on s'est aperçu... Enfin, on a recruté des gens avec notre fonctionnement entreprise libérée. On a considéré qu'ils étaient très motivés, très intelligents. Donc, on leur a dit, vas-y, du moment que tu es sympa et que tu fais bien les enjeux humains, ça va aller. Il y a quand même eu des difficultés. Voilà. Mmh. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on formalise un petit peu. Ça reste léger, ça reste une transmission très orale. Mais oui, il y a quand même aujourd'hui des étapes, par quoi tu commences. Il y a un peu rendez-vous zéro, tu poses ça comme question. Une réunion de chantier, c'est comme ça que ça se passe. Ton compte rendu de chantier ressemble à ça. Donc, il y a quand même des outils. Le suivi de budget, c'est comme ça le tableau. Donc, il y a quand même des outils.
C'est intéressant ce point-là parce que Effectivement, jusqu'où tu laisses libre les collaborateurs pour des initiatives, des innovations et faire comme eux le voient et où ça peut être une super valeur ajoutée. Et puis le côté, bah, c'est, en fait, il y a une méthodologie qui est là, qui est propre à l'entreprise, qui est aussi sa marque de fabrique et donc elle est à respecter. Et ça peut être parfois un cadre un peu trop petit pour certains profils. Tu as parlé d'entreprise libérée et on va revenir dessus après, mais. Mais ça, c'est un vrai sujet en termes de management. Ok, donc vous avez internalisé les compétences, vous êtes développé, vous avez trouvé d'autres clients, vous avez créé, tu disais, en 2016. 4 ans après, arrive cette crise du Covid-19. Pour vous, ça a été quoi? Un booster ou un frein?
Je pense que, comme pour tout le monde, ça a été d'abord un genre de gros point d'interrogation géant.
Ouais, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme on était toujours sans pression, on s'était pas fixé un objectif à atteindre, on n'a pas d'investisseurs. À l'époque, on s'était pas beaucoup payé, donc on avait plutôt, je crois, du cash sur le compte en banque.
Vous étiez déjà rentable?
On a toujours été rentable.
Dès la première année.
Mais la première année, on ne se payait pas, ouais. Donc forcément, ça fausse un peu la vision. Mais oui, de toute façon, on fait un métier de service. Si on vend un canapé et qu'on l'installe, il faut que ce soit rentable, sinon on ne pourra pas recommencer, quoi. Donc on a eu du financement bancaire, en fait, au Covid, très vite. D'accord. Je n'aurais pas dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'on a reçu un mail de la banque. Bonjour, c'est le un confinement. Si vous voulez un PGE, merci de répondre oui par retour d'email. Quoi.
D'accord.
Tu dis bon, bah ouais, d'accord. Donc ça nous, on n'était pas stressés pour ça. Ce qui était, moi, ce que j'ai pas aimé du tout en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai trouvé qu'on nous faisait reposer. On faisait reposer sur nous plein de décisions du genre est-ce qu'on peut venir au bureau, est-ce qu'il faut mettre les masques, est-ce qu'il faut. On a un peu oublié, mais il y avait plein de papiers qu'il fallait signer. Si tu voulais.
Il fallait des attestations, voilà. Dès que tu voulais bouger. Voilà. Ouais,
et on ne savait pas, avec certaines personnes dans l'équipe qui peuvent être inquiètes, en mode quoi, vous avez dit on vient au bureau, vous êtes fous, on va tous mourir. D'autres qui disent non, mais nous on a trop hâte qu'on fasse la prochaine fête au bureau. Et nous on est là, oui, nous on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Donc ça, je n'ai pas aimé. Mais sinon, ça a plutôt été un booster parce que 100% des entreprises ont eu recours au télétravail. À part les boulangers,
tous ceux qui, ouais.
Voilà. Et du coup, après le confinement, il y a quand même eu tous les bureaux de Paris, on va dire, qui étaient vides, à peu près. Et donc tous les directeurs immobiliers ou directeurs financiers se sont dit
qu'est-ce qu'on fait de tout ça.
Et donc tout le monde s'est posé la question et c'était plutôt une opportunité. Et comme nous, on était déjà un positionnement sur l'humain, sur le fait que le bureau, c'est un outil RH, on était plutôt très bien placés par rapport à notre concurrence qui était plus forte sur le plan technique ou sur le plan même du design. Là, ce n'était pas le sujet.
Donc vous, il y a quand même eu cette période, pour le coup, de confinement où là, les entreprises n'avaient pas besoin de bureau. Quoi. Donc c'était peut-être un peu compliqué pour vous. Il y a eu le PGE qui vous a permis de passer la période. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là?
Alors, on a fait plusieurs choses. Bon, déjà, on est quand même effectivement resté chez nous.
Ouais.
Donc on a une équipe technique qu'on appelle les bricoleurs, c'est des gens très polyvalents qui nous aident pour la personnalisation et aussi le sur-mesure. Petit à petit, on est devenu notre propre agenceur. Aujourd'hui, il y a une douzaine de bricoleurs, on a un atelier. Et alors eux, ils sont pas habitués à travailler sur l'ordinateur ou ce genre de choses, et donc rester chez eux toute la journée, c'était hyper violent pour eux.
Ouais.
Donc dès qu'ils ont pu aller sur des chantiers, parce qu'on avait le droit en tant que bâtiment, ils sont allés, donc en fait, on a fait avancer des projets.
D'accord.
Petit à petit, doucement, des projets qui étaient lancés. Donc, dans une ambiance très spéciale, le roi Merlin était ouvert, où on pouvait se faire livrer. Donc, les bricoleurs, en tout cas, sont allés un peu sur le terrain. Ça, c'était très particulier. On faisait des visios, ils nous racontaient, ils nous montraient.
D'accord.
Donc, c'était un peu bizarre. Il n'y a eu aucun commerce, on n'a pas eu d'appel de gens qui avaient des projets.
Ouais, vous n'aviez pas, pendant cette période-là, des demandes de devis ou de briefs
Rien du tout.
Mais et ça ne vous a pas stressé?
Non.
Non,
non, parce qu'on avait un très grand projet qu'on avait commencé, qu'on devait continuer. Donc, on a même fait un peu de propositions de mobilier, habillage à notre client en visio.
Vous n'êtes pas dit, sinon, voilà, on va pivoter ou lancer un autre service ou essayer de trouver autre chose. Non, vous étiez serein sur l'avenir. Ça va rouvrir et on va... Ouais.
Je pense qu'on... Je sais pas, je pense que peut-être on réfléchissait pas. Mais oui, non, on n'était pas inquiets.
Okay. Non, mais t'as l'air sereine. Tout le long de l'histoire, t'as l'air sereine. Tout va bien se passer. Mais c'est une force, hein. C'est une très grande force.
Je suis peut-être un peu inconsciente, hein. Je sais pas.
Ah, il en faut un peu pour être entrepreneur. Hein. Mais, ok, donc pendant cette période-là, vous faites avancer quelques projets. Ça rouvre. Là, on a vu une vague d'entreprises qui ont dit, mais en fait, on n'a plus besoin de 10 000 m², on a besoin de 5 fois moins ou autre, parce que bah, maintenant, on va autoriser le travail hybride ou en télétravail, ou etc. On pourrait se dire, bah, mince, ça peut être quand même une menace, parce que s'ils réduisent tous les espaces, il y aura moins de bureaux, donc potentiellement moins d'aménagements à faire. Et pour autant, c'est une grosse période où justement, les gens font beaucoup plus de changements qu'avant de bureaux. Donc pour vous, c'est une opportunité.
Oui, une opportunité avec vraiment beaucoup de gens intéressés par le sujet. Mmh. Et nous, on était très forts parce que nous, on faisait déjà le télétravail, on faisait déjà le flex, le hybride. On était déjà sur le bureau qui délivre un message, qui est pensé quand même pour le bien-être. Donc, on avait plein de choses à raconter. Par contre, la concurrence, eux, ils ont bougé pendant ce temps-là. Et donc, on est devenus beaucoup moins atypiques.
Ouais. Okay.
Et puis, nous, comme on a grandi plutôt après le Covid, on a grandi, bah nous aussi, on s'est normalisé.
Mmh.
Et donc, aujourd'hui, c'est plus difficile d'être différenciant. Parce que grâce à l'accélérateur Covid, tous nos concurrents sont assez forts sur les sujets.
Oui, ils ont aussi avancé de leur côté.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, juste au retour Covid, vous réussissez à répondre à toutes les demandes ou pas ?
Oui, quand même. Ouais. Bah, de toute façon, on est en pleine forme, on a bien dormi, on est motivé. Par contre, on recrute beaucoup et c'est à ce moment-là où on fait des erreurs d'accompagnement des nouvelles recrues, d'accord, qu'on lâche sur des projets et tout.
Quoi,
ça.
Quoi, par exemple ?
Bah, en fait, il suffit pas de... On va dire un binôme de chef de projet très fort qui propose un super plan, même qui fait bien ses tableaux de suivi, tout ça. Il faut quand même qu'il gère, par exemple, la pression du client. Mmh. Donc le client, il est stressé, c'est normal, c'est toujours un gros budget. Le timing, c'est le coup près parce que le bail, le truc, il n'y a pas d'option. Et donc le client, il va déverser son stress. Il va dire, oui, je suis passé sur le chantier, les électriciens n'étaient même pas là. Et après, il dit, mais non, c'est bleu, mais on avait dit vert. Enfin, il va... Et donc, il faut gérer ça.
Et le moindre détail va prendre
des proportions. Et ça, il y a des gens qu'on n'a pas accompagnés et qui sont mis à pleurer, à plus vouloir y aller, à être un peu terrorisés et tout. Mmh. Donc là, on s'est dit, mince, il faut quand même qu'on accompagne plus. On ne peut pas laisser tout seul face aux clients.
Il ne suffisait pas juste de dire plus un ou plus deux dans l'équipe. Oui. Il faut aussi accompagner.
C'est ça.
Donc du coup, vous avez retravaillé votre onboarding peut-être ou pas du tout ?
Oui, on a surtout été très vigilants à toujours mettre un ancien, un nouveau. D'accord. Alors après, avec des discussions sur... C'est
qu'est-ce
quoi
qu'un ancien,
ancien et... Voilà, et beaucoup, beaucoup de travail aussi pour les anciens, des nouveaux qui sont là. Moi, je veux aider, je veux faire des trucs, je m'ennuie, vous êtes débordés. Et nous, on dit, non, on envoie de l'ancienneté avec de la nouveauté. Donc, on a surtout été vigilants là-dessus et puis de faire de la formation, en tout cas de la pédagogie sur... Parce que nous, on avait appris, on l'a vécu. Donc, comment tu gères ton client ? Comment tu fais pour ne pas te retrouver dans une situation difficile ? Comment tu le rassures ?
Pourquoi cette stratégie d'un binôme pour gérer les projets ? C'est pour pouvoir, en cas de défaillance ou d'absence d'un des deux, qui a un relais qui se prenne ? C'est pour quoi ? Parce qu'on pourrait aussi se dire à l'inverse, deux chefs de projet dessus, c'est aussi potentiellement plus de charges pour vous, potentiellement répercuter au client un budget plus élevé. C'est quoi votre point de vue là-dessus ?
En fait, compte tenu du fait que le binôme du coup gère tout le projet, c'est quand même très lourd.
D'accord.
Et d'être deux, effectivement, c'est pas forcément économique, hein. Et c'est pas pensé pour l'absence de l'un ou de l'autre, même si ça c'est une conséquence. À deux, t'es plus fort. Donc déjà, t'écoutes mieux. Si le client a dit ce que j'aime, je sais pas, c'est... Je déteste la moquette. Parfois, c'est dur de tout écouter. Donc à deux, au moins, on a toutes les infos.
Tu vas être passé à côté
voilà,
de l'info, quoi.
C'est ça. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on est plus fort aussi quand il est contrarié ou quand on doit aller lui annoncer une mauvaise nouvelle. Quand même, c'est cool d'être deux. On y va, on dit bon, on va lui dire ça et tout.
C'est moins personnel.
En tout cas, on s'encourage. Et puis quand tu ressors, tu dis bon, ça s'est bien passé, ou alors voilà, c'était dur, voilà. Et je trouve que rien que de le fait de l'exprimer à quelqu'un, ben, le stress, il est parti,
ouais,
en fait. Et on est en mode solution. Et aussi, on est plus créatif. Enfin, surtout pour... Enfin, ça dépend des profils, mais je pense que c'est un métier créa, mais je trouve que quand on est deux, on peut vraiment se faire ce petit ping-pong, même si c'est 5 minutes pour trouver une idée. Et je trouve que c'est 1000 fois plus riche que si on est tout seul.
Alors parlons justement, puisqu'on est dans le management d'entreprise libérée, c'est quoi ton retour d'expérience sur le sujet? Est-ce que vous l'avez fait dès le départ de l'entreprise? Est-ce que vous l'avez fait à un moment donné dans l'entreprise? Et est-ce que tu vois un avant-après peut-être aussi avec le Covid?
Alors on l'a fait dès le début à cause de cette lecture. Moi je dirais, mon retour d'expérience c'est que c'est passionnant, donc là, c'est très intéressant, que c'est très puissant aussi. Mais que c'est difficile. Voilà. Moi, je trouve ça passionnant. En gros, la magie, c'est que je suis entourée de gens que je trouve incroyables. Et qu'à chaque fois qu'on embauche une nouvelle personne, je me dis, mais il y a encore une autre personne incroyable sur la Terre. Quoi. C'est fou, comme si le monde était peuplé de gens géniaux. Parce que si tu laisses les gens libres et que tu les places en position d'utiliser tout leur cerveau et d'être eux-mêmes, ben, ils ont un engagement de fou, ils ont des idées géniales. Donc ça, c'est vraiment le côté magique. Après, c'est un modèle qui est moins évident, donc qui nécessite beaucoup de réflexion, d'apprentissage, même pour nous. Je veux dire, on se dit, ah mince, et on a fait plein de bêtises. Par exemple, on s'est aperçu que oui, les gens sont très libres, mais ils n'ont aucun retour sur leur travail. Ni positif, ni négatif, constructif. Il n'y a pas de manager, donc il n'y a personne qui te dit « bien joué » ou alors qui te dit « là, tu devrais plutôt faire comme ça ». Ça, c'est vraiment un gros problème. Et puis, parfois, on est très flou. On dit aux gens « bon, fais comme tu veux, de toute façon, la parole est libre ». Et puis, tu arrives, tu me proposes, je sais pas moi, un nouveau site internet et je vais dire « j'aime pas et tout », et les gens ils savent plus si je suis le chef, s'ils doivent m'écouter. Je dis mais fais comme tu veux, mais moi j'aime pas ça, c'est pas
du
cool.
Coup il y a plus de cadre quoi, c'est ouais.
Donc on travaille là-dessus, mais c'est je donne des exemples rapides pour dire que ouais, ça nécessite beaucoup de cogitation. Et puis c'est dur pour les équipes parce que justement ça marche très bien dans notre méthodologie de projet, mais du coup, ils sont face à leurs responsabilités. Si un bricoleur va sur un chantier, qu'il a mis l'étagère de travers, le client, il dit, c'est de travers, il gère tout seul, il va pas dire, faut que je joue avec mon chef, il a pas de chef à appeler, donc
c'est
il se débrouille.
Ouais.
Donc s'il veut le refaire le soir ou le lendemain, décaler un truc, c'est son poids à porter.
Et comment tu monitores ça, du coup? Parce que le fait d'être libre peut mener aussi à avoir... Vous êtes 30 personnes qui font à leur guise, comme ils veulent, etc. On parlait de méthodologie tout à l'heure. Est-ce que tu as écrit quelque chose? Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a un reporting, un monitoring? Est-ce qu'il y a en fait quelque chose qui te permet de voir si justement cette liberté, cette responsabilisation est plutôt créatrice de valeur ou au contraire destructrice?
Alors, je ne sais pas. Plutôt non, mais il en faudrait un. Donc d'accord. Aujourd'hui, même, on est 40 depuis pas très longtemps. Ce qui a beaucoup changé, c'est que Quentin et moi, on ne fait plus de projets. Donc, on prend un nouveau rôle qui, je pense, va beaucoup tourner autour de ça, qu'on est en train de construire.
Mais que vous découvrez aussi, au final.
Exactement. Pour moi, le monitoring, c'est qu'est-ce qu'on délivre. Donc, moi, je suis assez stricte quand même sur le reporting financier. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas, on a pas vraiment beaucoup de contrôle de gestion, encore que on fait pas de projection. Par contre, on regarde les chiffres tous les mois très sérieusement pour être sûr qu'on va pas dans un mur. C'est la première chose. Et après, la satisfaction client. Moi, j'ai la chance maintenant, ça m'est arrivé là maintenant 2-3 fois, d'aller visiter des projets sur lesquels je suis jamais allée parce qu'on fait une petite bière de fin de chantier. Et donc, je vois ce qui a été fait, je vois la créativité, je vois que c'est un projet comme Yemanja. Et puis, s'il y a le client et que je l'entends qui parle ou des gens qui arrivent, ils disent « Ah, c'est trop cool et tout », voilà, ça, c'est notre monitoring. Le reste, c'est pas très important.
Ok. Bah, écoute, très bien. Je vois l'heure qui tourne et il va être temps d'aller sur la dernière partie.
Je suis trop bavarde.
Non, super intéressant. Donc, tu as dit, vous êtes maintenant 40. 13 millions, du coup, c'est aussi le chiffre.
Oui.
Ouais. Quelle est l'ambition pour Yemanja dans les prochaines années? Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire x2, x3, x10? Vous voulez rester à cette taille-là? Vous voulez aller sur d'autres marchés? Alors, comment tu vois la suite? Et puis surtout, bah, pour atteindre cette ambition, c'est quoi le plan? Donc j'ai compris que vous sortez, vous, de l'opérationnel et des projets pour travailler plus sur la structuration. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager?
C'est un gros sujet chez nous, la croissance, parce qu'en tant qu'entreprise libérée, pendant longtemps, on a pensé, on est revenu dessus un petit peu, qu'il fallait prendre les décisions à l'unanimité, y compris celle-ci, de est-ce qu'on doit grandir.
D'accord.
Sachant qu'une équipe de 8 personnes qui s'éclate n'a pas envie de grandir, une équipe de 15 personnes qui s'éclate n'a pas envie de grandir, etc.
Oui, parce qu'on se dit aussi, tiens, bah, la croissance, c'est bien, alors c'est peut-être ton objectif, toi, dirigeant, mais... Pour un collaborateur, c'est maintenant, c'est peut-être plus de boulot. Moi, j'ai pas envie spécialement. Je suis très bien comme ça. Enfin voilà, et c'est vrai, c'est pas toujours les mêmes objectifs ou motivations personnelles. Oui.
Et en plus, là, du coup, on sent à ce moment-là dans ces discussions ce pas entre le chef d'entreprise et les collaborateurs, donc, que je déteste. Moi, j'aimerais, mais effectivement, ça se pose à ce moment-là. Et Quentin et moi, on avait envie de grandir et on a fini par le dire comme ça, en fait. Mais d'accord. Nous, on a envie de grandir, on va vous dire pourquoi. Et la raison, c'est juste que c'est du kiff. On fait des projets plus grands, on peut plus s'amuser.
Et les projets plus intéressants.
Ah oui, enfin, tu t'éclates et tu rencontres, on va recruter d'autres gens, d'autres talents, d'autres copains potentiels. Je veux dire, c'est chouette, c'est juste ça. Donc c'était une manière un peu pour répondre à ta question. Donc nous aujourd'hui, Quentin et moi, et donc tout Yemanja, on a beaucoup d'ambition, mais on ne s'est pas vraiment fixé de chiffres, pour être très honnête. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur notre marché et que nous, on peut vraiment y aller. Après, le marché, il est assez concurrentiel maintenant. Et donc on a vraiment un enjeu de tirer notre épingle du jeu. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est... de dire bon bah ok maintenant, là c'est la première fois presque, tu vois, j'ai l'impression de devenir entrepreneur parce que je me dis c'est quoi la stratégie pour grandir, alors qu'avant, j'exagère un peu, mais ça s'est fait assez naturellement. Donc là on a embauché des gens à la com, on m'a dit de travailler mon personal branding et de venir à des podcasts, on a quelqu'un qui fait du marketing digital, et on essaye d'émerger, de travailler notre positionnement.
De vous faire une place. Oui. Mais, on le sait, notre métier avec Buzz Native, c'est effectivement de développer la visibilité des marques et leur permettre de se démarquer, parce que la densité concurrentielle est la plus importante et on sait très bien que les parts de voix précèdent les parts de marché. Donc, même si vous avez une société en croissance, ou même si à un moment donné c'est la crise, on sait que c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer pour préserver les mois et les années à venir. Donc, vous êtes engagé dedans, en fait. Oui. Vous avez, ce que je comprends, c'est que vous avez fait 7-8 ans où à l'intuition, au talent, etc. Vous avez prouvé finalement le concept et puis ça a marché, vous avez recruté et que maintenant vous voulez passer peut-être à un autre cap, vous de dirigeant, grandir en tant que dirigeant et puis faire grandir l'entreprise, passer un palier en structurant certains éléments comme la com et le reste, c'est ça?
Ouais, c'est très bien résumé et pour moi c'est impressionnant là, de t'entendre le résumer comme ça parce que nous on a du mal avec ça, enfin je dis nous, quant à moi. Et même l'équipe aussi a dit, mais vous allez faire quoi maintenant?
Oui.
Et donc, oui, mais je pense que c'est ce que tu as dit qu'on doit faire.
Ok, bon, écoute, super. Donc grandir en termes de, du coup, peut-être moyens ou ressources à disposition pour le faire. Alors, j'ai dit en intro, volontairement, de manière provocatrice, qu'on n'avait pas parlé de levée de fonds parce que vous n'en avez pas fait. Ça, tu peux nous expliquer, c'est une volonté de votre part, c'est vous avez aujourd'hui assez de fonds propres ou de rentabilité pour vous développer par vous-même, ou à un moment donné, si vous voulez élargir peut-être l'offre de services, aller sur un autre marché, il va falloir ouvrir le capital ou des financements.
Alors au début, Quentin il était avec un profil plus entrepreneurial, il était plutôt partisan de faire une levée de fonds pour justement pouvoir recruter et grandir plus vite. Puis ça s'est pas fait parce qu'on s'en est pas vraiment occupé. Et après, maintenant, on s'est aperçu que c'était vraiment une chance immense d'être tout seul au capital.
D'être indépendant.
Ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que je pense qu'on ne l'a pas assez mesuré, qu'on n'a pas vraiment de compte à rendre. Enfin, on a des comptes à rendre à l'équipe et à nous-mêmes. Donc, on est obligé de ne pas faire n'importe quoi parce qu'on a une équipe, des clients, mais voilà, une équipe qu'on aime et avec qui on partage. mais on n'a pas besoin de... Et pourtant, je connais ça par cœur, de reporter au conseil d'administration, de justifier pourquoi...
c'est une toute autre démarche. Ouais.
Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, si on arrive à rester comme ça, on va le faire. Après, là, on a beaucoup investi. On a pris un lieu qui est très beau, qui se visite d'ailleurs.
J'imagine que vos locaux doivent être sympas quand même.
Ouais, et puis là, on s'est fait un gros plaisir. On a pris 1200 mètres carrés à Strasbourg-Saint-Denis avec un très grand atelier qu'on a fait évidemment nous-mêmes. Voilà, qui sont élus officiellement les plus beaux bureaux de Paris.
Par qui?
Par nos pères. On a gagné un prix. Voilà. Bon. Non, mais plus sérieusement, on a fait un lieu très chouette qui illustre bien notre travail, mais qui nous a coûté très cher et qui nous coûte très cher aujourd'hui. Donc le but, c'est de faire venir des gens, de faire vivre ce lieu. C'est vraiment aussi trop chouette parce qu'il y a des gens qui viennent bosser. Si vous voulez venir enregistrer là-bas, c'est possible. C'est vraiment agréable aussi. Et l'équipe est heureuse et fière de ça. Donc ça, c'est un plaisir. Et puis, on a une équipe com aussi, donc, qu'il faut payer.
Donc, oui. Donc vous allez investir en communication, ouais, en visibilité pour essayer d'aller prendre aussi des parts de voix, des parts de marché au final. OK. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, ce que tu disais.
Moi, je trouve, alors, en fait, c'était un marché qui était déjà structuré avec des très, très gros acteurs. Et nous, on était les petits nouveaux, ce qui est assez cool comme position.
Oui, tu as moins de pression et tu peux te permettre d'être un peu, d'être décalé par rapport à ce que font les autres.
Là, on est plus nous-mêmes dans le marché. On commence à être un acteur un peu gros par notre taille. Et donc, je trouve que la concurrence a beaucoup évolué et qu'on est moins différents.
Ok, bon, peut-être un sujet à travailler dans les prochains mois. Écoute, merci à toi, il va être temps de conclure. Pour ça, il me reste quelques petites questions pour toi. La première, c'est, tu as déjà répondu en tout début, mais peut-être que tu auras une réponse différente. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur?
Peut-être se lancer. Pour ma part, se laisser porter. Aujourd'hui, quand même, je dois l'avouer, c'est une grande fierté. J'y pensais pas. Je pense pas que mon moteur soit la reconnaissance. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis fière.
Tu peux, un beau parcours.
Et surtout, c'est beaucoup de kiff. Hein. Nous, notre but, c'est vraiment de nous amuser. Donc, comme je dis parfois, moi, c'est pour qu'on se mette à être chiant et à s'ennuyer, on arrête tout de suite, quoi. C'est pas la peine.
Kiffer le chemin, l'aventure. Non, mais parce que souvent, on se dit, voilà, on a des objectifs, là, mais il faut aussi prendre plaisir sur le chemin. Donc, c'est ce que je retiens de ce que tu dis.
Et aussi, vas-y. C'est un grand apprentissage. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, écouté. Moi, je disais que je pouvais tout faire, sauf la vente. Donc, la première fois qu'il fallait vendre, quand t'as aussi, c'est pas très fort. On n'avait rien à vendre, donc on voyait des gens, on était gentils et tout. Donc, j'ai une amie qui est venue nous coacher, apprendre plein de trucs, ça, c'est cool.
Ok, donc, finalement, une progression aussi individuelle.
Oui, très, très importante.
Dans l'expérience entrepreneuriale, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est aussi un message pour les auditrices et auditeurs. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut parfois marcher, parfois ça ne marche pas, mais on a toujours appris des choses. Qu'il arrive, même si on a testé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça se revend à un potentiel employeur ou sur une prochaine entreprise créée. Très bien, toi qui as vécu l'expérience du podcast, comment t'as fait maintenant, quel entrepreneur masculin ou féminin que tu connais et qui tu peux mettre en relation, tu me recommanderais de inviter?
Alors, j'en connais beaucoup, des gens formidables,
mais il faut faire un choix.
J'ai pensé que, je me dis que vu la nature de tes questions et que c'est très concret, je pense à un ami, un couple d'amis qui sont entrepreneurs, mais d'une manière vraiment que moi j'admire beaucoup. Alors, je vais surtout parler de lui, même si elle aussi elle fait ça. Lui, il a repris une boîte de ménage, donc vraiment pas sexy. Il la maintient à un niveau pas de croissance de fou, pour préserver un équilibre vie privée, vie professionnelle.
D'accord.
Voilà, avec un petit engagement social, sans le dire, d'aider pas mal de gens autour. J'aime beaucoup. Il s'appelle Richad Abdullah.
Voilà. Eh bien, je prends. Avec grand plaisir, si tu peux nous mettre en relation, je l'inviterai.
Je le ferai.
Avec grand plaisir sur le podcast. Un mot de la fin, je sais pas, un conseil, un truc, quelque chose que tu veux partager aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui sont soit déjà entrepreneurs ou qui souhaiteraient le devenir.
Vraiment faire confiance à son instinct, à son intuition. Ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou en tout cas qu'on ne sent pas. Je pense que le feeling, c'est très important, notamment pour l'association. Mais même parfois, on se dit, je n'ai pas envie de faire ce projet. Ou, je crois que c'est très important d'écouter son cœur plus que sa raison. Et je me permets de dire ça parce que je suis entourée aussi de gens très cartésiens et rationnels. Je pense qu'on peut y aller avec le cœur, c'est pas mal.
Okay. Oui, aussi. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Marie. Super intéressant. Je pense que ça va en aider plus d'une et plus d'un. Un grand merci à vous aussi qui nous écoutez. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. C'est-à-dire que vous êtes soit entrepreneur, soit vous voulez le devenir. En tous les cas, vous êtes intéressé par le sujet de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez gagner des années d'expérience en une heure d'écoute seulement, eh bien, rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur commenttafait.fr pour découvrir tous les parcours justement, d'entrepreneurs qui viennent partager leur expérience entrepreneuriale à mon micro. À très vite. C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.